Vous écoutez Radio Okapi et je suis Jody Daniel Kachama, la voix qui vous tient compagnie dans Okapi Service, du lundi au vendredi à partir de 9h, heure de Kinshasa sur Radio Okapi. Vos difficultés, problèmes de droit, de consommation, vos préoccupations de tous les jours nous intéressent. Ensemble avec nos invités et experts, nous sommes là pour vous rendre service. À bientôt. Voilà, docteur Laetitia Mavinga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre au clinique universitaire de Kinshasa.
Oui.
Nous parlons aujourd'hui de la souffrance fœtale à naissance. Il arrive que certains enfants connaissent l'asphyxie aux souffrances fœtales lors de l'accouchement. Cela est dû à un problème de respiration lors de l'accouchement, selon les informations reçues. Le manque d'une prise en charge correcte peut entraîner des complications graves sur la croissance de l'enfant. Alors, première question, c'est si vous pouvez bien encore expliquer cette notion, la souffrance fœtale.
Oui, merci. La souffrance fœtale est définie selon l'Organisation mondiale de la santé
oui.
comme étant l'absence d'une respiration initiale, efficace et soutenue à la naissance. C'est-à-dire la première respiration dès que l'enfant sort de la matrice de sa mère.
Oui.
C'est cette première respiration lorsqu'elle est inefficace. Et cela va entraîner, donc va être à la base de plusieurs problèmes chez l'enfant.
Mais qu'est-ce qui peut faire que l'enfant ne respire pas très bien dès la sortie du sein maternel?
Bon, les causes, il y en a plusieurs. Il y a les causes qui sont liées à la mère. Il y a les causes qui sont liées à l'enfant lui-même quand il était encore dans le sein, quand on l'appelait encore fœtus. Et il y a des causes, d'autres causes qui sont liées aux problèmes pendant la grossesse. Alors, concernant la majorité de causes, on cite les problèmes des contractions
oui.
pendant le travail d'accouchement. Parce que je tiens à préciser ici, quand on parle de la souffrance, actuellement, le terme le plus adapté, c'est l'asphyxie périnatale. Donc, c'est l'asphyxie, donc c'est problème de souffrance au moment de l'accouchement. Donc, du moment où la femme commence à avoir les contractions,
oui.
donc comme on appelle les douleurs d'accouchement, jusqu'à la sortie complète de l'enfant, c'est cette période-là qu'on appelle la période périnatale, perpartale ou périnatale.
Périnatale.
Oui. Et bon, si je peux me limiter là pour oui. une meilleure compréhension. Donc, la souffrance pendant ces processus d'accouchement.
C'est-à-dire quoi? La maman n'arrive pas à bien, les contractions ne se passent pas très bien, ce qui fait que l'enfant est étouffé?
Oui, quand il y a des mauvaises contractions, et cela peut avoir des répercussions sur la circulation du sang chez le fœtus. Et cela peut conduire à ces problèmes d'asphyxie. Et aussi, on peut avoir aussi des problèmes liés au placenta. Lorsqu'il y a une dégénérescence, donc un vieillissement du placenta, on peut arriver à avoir aussi une perturbation dans la circulation du sang du fœtus. Et cela va se manifester par notre maladie d'aujourd'hui qui est l'asphyxie.
Donc si je comprends bien, si la maman n'est pas assez vigoureuse, elle n'a pas assez de force pour pousser et que ça traîne, ça peut entraîner ce problème.
Bon, là c'est aussi l'une des causes, c'est qu'on a en fait quand l'accouchement est bien dirigé, dès que la tête de l'enfant apparaît, normalement l'enfant ne peut plus traîner à ce niveau-là. Parce que s'il traîne, il peut avoir aussi ce problème d'asphyxie. Il y a aussi d'autres causes qui sont par exemple le problème du cordon ombilical.
Oui.
Il y a des enfants, déjà quand il est dans le sein maternel, le cordon peut s'enrouler autour de son cou, ce qu'on appelle le circulaire. Ou le cordon peut sortir dans le voie génitale avant la sortie de la tête, ce qu'on appelle une procidence. Et tout ça...
Mais ça complique encore l'équation.
Oui, ça complique encore parce que la circulation de l'enfant dépend de la mère. Et le rapport, donc le contact entre l'enfant et la mère, c'est par le placenta. Et à partir du placenta, vous avez le cordon ombilical qui amène le sang vers l'enfant. Et quand le cordon est, je peux dire, comprimé, quand le cordon est en souffrance, on peut avoir une répercussion sur la circulation de l'enfant. Et cela va vous donner un tableau d'asphyxie périnatale aussi.
Voilà. Et généralement, quelles sont les caractéristiques que présente cet enfant-là qui a souffert de l'asphyxie périnatale?
Bon, avant de donner les caractéristiques ou les signes cliniques que nous voyons, je vais d'abord dire que pour parler de ce diagnostic, il y a des critères que nous évoquons, on peut avoir, on tolère au moins la présence de deux critères pour évoquer ce diagnostic.
Mmh, lesquels ?
Parmi ces critères, avant la naissance de l'enfant, lorsqu'il y a une perturbation, donc il y a des modifications dans le déroulement du travail d'accouchement, donc pendant les contractions, on peut facilement le percevoir lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le partogramme. C'est au fait un diagramme de l'accouchement. À ce moment-là, lorsqu'on a des anomalies, on peut déjà dire qu'il y a un problème. Ou lorsque on écoute, parce qu'avant que l'enfant ne sorte, pendant que la maman est en travail d'accouchement, le gynécologue perçoit les bruits de son cœur. Alors, lorsqu'il y a aussi des anomalies, dans le sens soit d'une augmentation ou soit d'une diminution de ces bruits cardiaques du fœtus, on peut déjà penser à ces problèmes-là. Ou alors, lorsque, avant même que l'enfant ne sorte, le fœtus ne sorte, vous avez les liquides amniotiques qui est méconia, donc qui a la coloration verdâtre. Or, c'est un liquide qui est blanc, qui a la coloration blanche. Mais lorsque le liquide qui sort, sort verdâtre, il faut déjà se dire que cet enfant-là est en souffrance. Alors, quand l'enfant est né, il y a d'autres signes que nous voyons. Par exemple, il y a un score que nous calculons à la naissance, ce qu'on appelle le score d'Apgar. C'est un score qu'on calcule en trois temps. Et le temps le plus important, c'est le deuxième temps. Donc, à la cinquième minute, lorsqu'on a ce score qui est, comme on le dit, inférieur à 7, à la cinquième minute, c'est un signe de souffrance ou d'asphyxie périnatale. Et cet enfant qui sort, qui a souffert dans le sein de sa mère, qui sort, il va présenter certains signes, surtout des signes neurologiques. C'est-à-dire quand on voit le nouveau-né, c'est un nouveau-né d'abord qui n'a pas crié, c'est un nouveau-né qui est faible, on appelle ça hypotonie, c'est un nouveau-né qui n'a pas tous les réflexes qu'un nouveau-né normal doit avoir à la naissance. Voilà un peu quelques signes que nous avons, quelques critères pour parler de cette maladie. Et alors, maintenant, on peut parler des signes cliniques. C'est-à-dire, ce nouveau-né-là qui a présenté une asphyxie périnatale va présenter une perturbation neurologique. Donc, son tableau neurologique sera pratiquement perturbé. C'est un enfant qui ne saura pas sucer, parce que la succion, c'est l'un des réflexes capitaux du nouveau-né, parce que ça va lui permettre de prendre son lait. Et si le nouveau-né ne sait pas sucer, des fois il n'a pas de cri. Vous avez un nouveau-né qui n'écrit pas, qui peut être en coma et qui peut présenter aussi des mouvements de convulsion. Tout ça, ce sont des signes en faveur d'une souffrance ou asphyxie périnatale.
Voilà, et on entend souvent dire « moi n'amélie maille », tout ça. Et ça rentre également dans ce contexte-là.
Non. Je dirais non, parce que le maïla qu'on utilise, c'est le liquide amniotique.
Oui.
Normalement, quand un nouveau-né sort, bon, actuellement, avec l'infection à VIH, on ne fait plus l'aspiration chez tout le nouveau-né. Mais normalement, le nouveau-né avale le liquide amniotique quand il est dans le sein de sa mère. Cela a de l'importance.
C'est pas dangereux pour lui.
C'est pas dangereux. Oui. C'est un liquide qui est recyclé. Le nouveau-né l'avale et, en fait, le fœtus avale et le fœtus urine aussi dans ces liquides-là. C'est pas un liquide qui est mauvais. Ben, je crois que le problème, c'est ça. Moi, la mélimaille, peut-être qu'il passe. Les gens qui disent ça passent à côté d'une asphyxie périnatale.
Il avale, il urine en même temps.
Quand il est dans
il
le sein maternel, oui. C'est un liquide qu'il avale, il déglutit, et c'est ce même liquide-là qui lui urine aussi.
Ah, voilà. Voilà, il y a une question ici, dans cette émission, les auditeurs nous appellent, ils écrivent pour poser des questions. Moi, c'est Malengue, étudiant de G1 Psycho à l'université de Lubumbashi. Je demande au médecin pédiatre de m'expliquer comment on peut soigner un enfant qui est né fatigué alors que sa maman respectait toutes les conditions alimentaires médicales. C'est la question de Malengue depuis Lubumbashi.
Merci pour la question. Je crois qu'on va parler du traitement. L'enfant fatigué, je vois ça sous le plan neurologique. C'est un enfant qui a une hypotonie. Donc, vous avez une faiblesse musculaire.
Oui.
Normalement, le nouveau-né à terme, à la naissance, c'est un nouveau-né qui a des mouvements à tout moment. Il ne reste pas fixe. Il bouge ses membres supérieurs, il bouge ses membres inférieurs, il crie. Alors, un enfant fatigué tel que notre ami nous dit là, je pense que c'est un enfant qui n'a pas tous ces mouvements-là. C'est un enfant qui a une hypotonie. Alors, maintenant, il faut remonter. Il y a plusieurs causes d'hypotonie. Parmi ces causes-là, vous avez aussi l'asphyxie. Mais il y a aussi d'autres causes, parce qu'il y a d'autres maladies, même des maladies musculaires, qu'un nouveau-né peut présenter, des maladies congénitales qui vont se manifester par cette hypotonie. Alors la prise en charge dépend de l'étiologie. Voilà.
Voilà la prise en... Alors, quels sont, si cet enfant grandit comme ça, est-ce que cela peut provoquer sa mort ou plus tard, quelles sont les séquelles ou les conséquences que cela peut apporter dans sa vie?
Oui, pour l'asphyxie, vous avez, c'est une maladie grave. En fait, je dois apporter une précision. C'est une maladie du nouveau-né à terme. Ce n'est pas une maladie du nouveau-né prématuré. Mmh. C'est une maladie du nouveau-né à terme qui est responsable de beaucoup de problèmes à la longue. Et cela peut entraîner des séquelles neurologiques. C'est comme ça, la prévention, c'est vraiment un temps capital dans cette maladie. Cela peut conduire au décès si la prise en charge, donc le traitement n'est pas bien au point. On peut avoir le décès du nouveau-né. Et si le nouveau-né survit, il peut avoir des complications neurologiques, donc des séquelles neurologiques. Et parmi ces séquelles, nous citons ce qu'on appelle l'encéphalopathie. L'encéphalopathie post-asphyxique ou post-anoxique. Et cette maladie va vous donner comme manifestation chez l'enfant. Vous allez voir pendant, donc après la naissance, l'enfant doit grandir. Mmh. L'enfant doit pouvoir s'asseoir, il doit pouvoir s'élever, il doit parler, il doit écouter. Et vous avez des enfants comme ça qui ne s'assoient pas, qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas, parce qu'ils ont présenté cette maladie à la naissance. Voilà.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Vous avez des questions, des réactions, appelez-nous au 081-890-6394 ou écrivez-nous à notre adresse service@radiokapi.net. Nous recevons aujourd'hui Dr Laetitia Mavinga, pédiatre clinique universitaire de Kinshasa. Alors, docteur, comment prendre en charge un tel cas d'asphyxie?
Oui, je m'excuse. La prise en charge ou le traitement, c'est d'abord la prévention. La prévention consiste à éviter tous ces problèmes-là qui peuvent conduire à une souffrance ou à des perturbations de la circulation du fœtus. Et la première chose, c'est qu'il faut d'abord vulgariser les consultations prénatales. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui s'en foutent un peu de consultations prénatales. Or, c'est par les consultations prénatales qu'on peut détecter déjà ces petits problèmes-là, qu'on peut éviter cette maladie-là.
Il faut au moins voir le médecin.
Toute femme enceinte, dès qu'elle
constate...
Non, il y a un horaire précis que les gynécologues pourront vous donner plus de détails. Mais sinon, si la grossesse n'a pas tellement de problèmes, ne fût-ce qu'au moins 3 consultations pendant la grossesse. Lors du premier trimestre, lors du deuxième trimestre, lors du troisième trimestre. Mmh. C'est lorsqu'on détecte qu'il y a un problème, donc c'est une grossesse à haut risque, c'est à ce moment-là que les consultations seront beaucoup plus rapprochées. Donc on peut arriver même à 9 consultations si c'est une grossesse à haut risque.
Il y a aussi des séances d'animation avec les mamans. On voit dans certains hôpitaux des infirmières, on entend une chanson. Après ça, on sensibilise les mamans sur certaines questions.
Oui. Et elles ont aussi le droit de poser des questions, surtout pour les premiers pas. Donc les femmes qui accouchent, qui ont la grossesse pour la première fois, elles doivent suivre, donc elles doivent assister à ces séances-là. Cela est vraiment, c'est une manière d'éduquer ces mamans, ces futures mamans-là. Mmh. Et cela leur apporte aussi beaucoup de choses sur le prochain accouchement qui aura lieu.
Voilà. Nous avons en ligne Paulin qui nous appelle depuis Isiro, dans la province orientale. Paulin, bonjour.
Bonjour, M. Janis.
Oui, quelle est votre question?
Oui, j'ai une femme à la maison. Quand il prend la grossesse, il continue de souffrir au moment de la ventre, mais lorsque je ne pouvais pas connaître, est-ce qu'il peut aller consulter les médecins? J'ai vu les choses qui viennent dans son ventre, qui peut souffrir dans cette ventre. Est-ce qu'on peut faire quoi?
Vous dites quand votre femme est enceinte et elle a des maux de ventre?
Oui. Il peut souffrir dans le ventre, ça au moment de la grossesse. Qu'est-ce qu'il va faire alors? C'est ma question.
Oui, sa femme, au moment de la grossesse, elle a des douleurs au ventre. Qu'est-ce qu'elle doit faire, docteur?
Bon, elle doit consulter un gynécologue, ça c'est la première chose. Mmh. Il faut éviter l'automédication à la maison. Il faut éviter de prendre des plantes, tout ça, parce que ça peut être toxique pour le fœtus qui est dans sa matrice. Donc, je lui conseillerais de consulter un gynécologue.
Et ces douleurs-là peuvent être causées par quoi?
Oui, il y a plusieurs étiologies à ces douleurs-là. Oui. Si elle est à terme, ça peut être aussi le début du travail d'accouchement.
Oui.
Si elle n'est pas à terme, ça peut être aussi une des manifestations d'une menace d'accouchement prématuré. Donc, je pense que ce sont les gynécologues qui sont mieux placés pour voir cette femme. Bon, s'il n'y a pas un gynécologue dans les environs, il y a des sages-femmes aussi qui sont très expérimentées et qui savent déjà à partir de tels signes, il faut référer la femme à l'hôpital. Voilà, en fait.
Madame Chantal nous appelle, elle est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, madame.
Oui, j'appelle de Kinshasa. Bon, il y a un problème. Quand la femme est en train de téter, alors il y a un bruit un peu bizarre. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Donc, grand. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à du fait qu'il a avalé le liquide? Est-ce qu'on n'a pas bien aspiré? Ou bien un problème dû à l'infection ou bien qu'on sort. Mais quand il se repose, deux fois ce bruit n'apparaît pas.
Oui, voilà, docteur, qu'est-ce que vous diriez à Madame Letty, à Madame Chantal?
Là, ça devient une consultation pédiatrique. En fait, quand c'est un nouveau-né quand il est en train de téter. C'est déjà une bonne chose parce qu'un enfant qui a une asphyxie peut très souvent ils ont des problèmes de succion. Donc déjà quand il tète là, ça c'est une bonne chose. Alors il se peut que c'est un nouveau-né qui avale beaucoup de lait. Et c'est le bruit là que la maman entend, c'est tout simplement le bruit de la déglutition, donc le passage du lait au niveau de l'œsophage.
Mais c'est un bruit qui inquiète la maman.
Bon, si c'est tellement inquiétant, qu'elle consulte un pédiatre, je pense que c'est mieux. Parce que l'inhalation du liquide amniotique, Amélie Maille, ça ne donne pas ce bruit-là. Et très souvent, ça donne quelques symptômes juste à la naissance. Là, et dès qu'on aspire, le problème est passé.
Voilà, José nous appelle depuis Mbujimaï, au Kasaï Oriental. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Ma question est que je demande auprès de madame, la médecin pédiatrique, qu'elle m'explique du point de vue clinique, quels sont les signes là que je peux retenir sur la souffrance périnatale. Et en dehors de cela, quelle sera la conduite à tenir? Parce qu'on m'a dit qu'il faut respecter les principes de réanimation, mais je ne comprends pas justement par là. Qu'est-ce que je peux retenir? Merci,
José. Docteur Laetitia.
Oui, si je dois me répéter, sur le plan clinique, quels sont les signes d'une asphyxie ou souffrance? Vous avez des signes d'une atteinte neurologique. Donc, vous avez d'abord les signes neurologiques, c'est-à-dire que c'est un nouveau-né qui peut présenter des convulsions, qui peut présenter un coma, c'est-à-dire c'est un enfant qui est vraiment, donc c'est comme si il ne lui reste que la respiration. Donc sur le plan contact, il n'y a pas de contact avec ce nouveau-né là, et c'est un nouveau-né qui peut présenter aussi une hypotonie, donc une faiblesse généralisée. Et toujours sur le plan neurologique, il y a des réflexes qu'il ne va pas présenter, que tout nouveau-né à terme doit avoir. Et parmi ces réflexes, j'ai cité la succion, déglutition. Tout nouveau-né, dès qu'il sort de voie génitale de la mère, après qu'on l'ait essuyé, essayez de mettre un doigt dans sa bouche, vous allez voir qu'il va sucer. Il va penser que c'est déjà le sein de sa mère. Donc, un enfant qui ne suce pas déjà à la naissance, c'est un problème. Et il y a d'autres réflexes que beaucoup de médecins connaissent, le réflexe de Moreau, de grasping, l'extension croisée. Tous ces réflexes-là ne vont pas exister chez un nouveau-né qui a présenté une souffrance dans le sein de sa mère. Et pour la prise en charge, nous avons commencé par parler de la prévention. Toute femme enceinte doit pouvoir bénéficier des consultations prénatales. C'est très nécessaire. Ça va permettre aux gynécologues ou aux sages-femmes de détecter à temps si c'est une grossesse à haut risque, c'est-à-dire une grossesse à problème, et de pouvoir soigner ces problèmes-là à temps. Deuxièmement, lors de l'accouchement, la femme doit être surveillée. Il faut bannir l'accouchement à domicile. Ça n'existe plus actuellement. Parce qu'à domicile, vous avez beaucoup de problèmes qui passent inaperçus. Et bien qu'il y a toujours, on dit qu'il y a des mamans expérimentées dans les quartiers, mais il y a des choses qu'elles, qu'elles ne savent pas expliquer. Oui. Donc l'accouchement doit se faire en milieu hospitalier, donc à l'hôpital, sous surveillance médicale.
Il a parlé aussi de des principes de réanimation.
Oui, je vais arriver à cela.
Oui.
Donc il y a l'accouchement à l'hôpital sous surveillance médicale, et c'est pendant cette surveillance qu'on peut détecter qu'il y a un problème, et à ce moment-là, on va recourir à une césarienne. Donc il faudrait extraire, faire sortir cet enfant-là rapidement, dès qu'on constate que son cœur ne va plus bien, qu'il a des perturbations donc dans son rythme cardiaque, qu'il y a du liquide amniotique de coloration verdâtre qui sort. À ce moment-là, on ne va plus attendre que la femme arrive jusqu'au moment de l'accouchement. On doit interrompre cette grossesse en faisant une césarienne.
Mmh.
Et la césarienne, c'est un bon geste qui peut sauver, qui va sauver d'ailleurs beaucoup d'enfants. Sinon, parce que si on laisse l'enfant arriver jusque à ce que le col de sa mère, donc le col de sa matrice, s'ouvre complètement, c'est un enfant qui va souffrir pendant longtemps et on risque d'avoir des séquelles graves.
Mmh.
Alors, dès que vous avez un enfant à la naissance qui a posé ses problèmes d'asphyxie, ce qu'il faut faire, c'est la réanimation. Et la réanimation néonatale, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. C'est un travail d'équipe qui s'apprend et qui doit être vite fait pour sauver, pour limiter les séquelles, les complications neurologiques chez l'enfant.
Voilà, nous avons Jean-Paul Ewinson depuis Isiro et Ignace nous appelle de Colosie. Jean-Paul Ewinson, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc, vous êtes à deux à Isiro. Et vous voulez poser des questions.
Ok, ok, je suis à Isiro.
Oui, vous êtes avec Winston au même endroit.
Ok, ok, je peux aller.
Oui, allez-y rapidement.
Mon problème est que j'aimerais un peu que le médecin nous dise quels sont les critères sur lesquels on peut se dire que non, cet enfant est soit en souffrance ou non, et quelle est la prise en charge pour chaque cas.
Merci, et Winston.
Alors
okay. Oui, allez-y, Winston.
Ah, c'est Monsieur Ignace à Polizia.
Ah, Monsieur Ignace, oui, on vous écoute.
Je voudrais savoir, on parle de problèmes d'asphyxie généralement. Il y a certains enfants qui naissent avec des yeux rouges et parfois de problèmes de respiration. Alors, il y a une croyance selon laquelle il y a un liquide lors de l'accouchement, lorsqu'il y a fausse manœuvre, qui pénètre dans les narines, quelque chose dans ce sens-là. J'ai bien avoir un peu les précisions.
Merci. Est-ce que Winston est en ligne?
Oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, Winston, on vous écoute.
Bon, je voulais poser une question. Quand la femme fait caca dans le ventre de maman pendant le travail, est-ce que ça peut avoir des perturbations dans sa santé?
Ben, merci beaucoup pour toutes ces questions, docteur Laetitia.
Oui.
Quand l'enfant fait caca dans le ventre de sa mère, ça peut poser de problème?
Oui, quand l'enfant fait caca, il y a deux situations. Il y a le fœtus qui s'est trouvé en position normale, donc en position céphalique. La position céphalique, c'est comment? Dans le sein, dans l'utérus, dans la matrice de sa mère, la tête se trouve en bas et les pieds en haut. Mmh. C'est parce que normalement, l'accouchement normal, c'est la tête qui sort, qui doit sortir en premier lieu.
Mmh.
Le reste du corps ne fera que suivre. Alors, on peut avoir aussi une situation où c'est l'inverse. C'est-à-dire que la partie inférieure, les fesses sont en bas, la tête est en haut.
Et ça, souvent, c'est compliqué. Hein?
Là, c'est compliqué.
Mmh.
Et souvent, les enfants, donc c'est ce qu'on appelle la présentation de siège. Donc, les fesses en bas. Donc, dès quand l'accouchement se passe, ce que vous allez avoir en main, en premier lieu, ce sont les fesses de l'enfant.
Mmh.
Et la tête est restée plus haut. Et souvent, ce sont ces enfants-là qui font caca dans la matrice.
Mmh.
Et en faisant caca dans la matrice, le caca va colorer, donc changer la couleur du liquide amniotique. Parce que je dois dire que tout enfant qui se trouve dans la matrice baigne dans un liquide, c'est ce qu'on appelle le liquide amniotique.
Mm-hmm.
C'est un liquide qui est clair. Je vous ai dit, l'enfant avale ce liquide-là.
Si.
Il urine dans ce liquide. C'est un liquide qui est clair, qui est sain, qui est propre, qui est stérile. Alors, quand l'enfant fait caca dans ce liquide-là, il salit un peu ce liquide.
Mmh.
Et puis,
il va avaler encore ce liquide-là.
Bon, non. Heureusement pour cet enfant, souvent, c'est pendant le travail d'accouchement.
Voilà.
Donc, on va le sortir assez rapidement.
Voilà.
Mais dans l'asphyxie, je vous ai parlé, parmi les critères, il y a les liquides amniotiques verdâtres. La coloration verdâtre-là est due au fait que l'enfant a fait aussi caca dans le sein, donc dans la matrice de sa mère.
Mmh.
Et cela va colorer le liquide. Mais c'est déjà un signe que c'est un enfant qui souffre sur le plan neurologique. Je m'explique. l'asphyxie va entraîner des problèmes au niveau neurologique, au niveau des nerfs. Mais pas seulement au niveau des nerfs, mais au niveau des autres organes de l'enfant. Entre autres au niveau de son tube digestif, au niveau de ses reins, au niveau de son foie. Et l'atteinte, donc le problème au niveau de son tube digestif, peut être responsable de cette émission rapide des selles pendant que l'enfant n'est pas encore sorti.
Donc, il faut l'évacuer rapidement.
Il faut l'évacuer rapidement et la césarienne est mieux indiquée.
Ignace, depuis qu'on le dit, il dit que certains enfants naissent avec les yeux rouges. Ils ont des problèmes de respiration et on dit qu'ils ont avalé peut-être que le liquide amniotique leur est passé par le nez. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Les yeux rouges, on voit quand même quelques enfants. Bon, pas tous les yeux. Enfin, pas une coloration rouge foncé. Hein. Oui. On peut avoir quelques lignes rouges au niveau des yeux. Le plus souvent, c'est lié au traumatisme de l'accouchement. L'accouchement a été un peu difficile. Mmh. Et souvent, comme je vous ai dit, quand l'enfant est déjà... On voit déjà la tête de l'enfant. Il ne faut pas que la femme se laisse aller, s'affaiblisse. À ce moment-là, la femme doit avoir toutes ses forces pour pousser. Hein, donc, pour pousser pour que l'enfant sorte. Mais si elle s'affaiblit à ce niveau-là, l'enfant peut traîner là et on peut avoir des petites hémorragies. Ce sont des hémorragies tout simplement. C'est-à-dire que le vaisseau, les artères, les veines de ses yeux se sont rompues et on peut avoir une petite hémorragie. Ça n'a pas un lien direct avec l'asphyxie. Ça peut être tout simplement ces petits traumatismes. Parce que le fœtus doit passer à travers un canal. Et c'est un canal osseux. Donc, les os du bassin, là, ce sont des os qui ne bougent pas. Maintenant, l'enfant doit s'adapter, doit faire des efforts pour passer à travers ces canaux osseux-là. Et cela peut entraîner quelques petits problèmes, dont une petite hémorragie au niveau de ses yeux ou au niveau de... Du cuir chevelu, ça peut arriver. Ça n'a pas toujours un lien avec l'asphyxie qui est notre sujet du jour.
Dernière intervention, Christophe depuis Isiro, rapidement. Bonjour Christophe. Christophe.
Oui, bonjour.
Oui, votre question.
Oui, je veux demander au médecin pédiatre, j'ai un problème, ce n'est pas direct peut-être avec ce qu'elle dit, mais l'AFA de 2 ans qui ne dort pas tranquillement, qui se roule comme un tonneau sur le lit, qui gesticule beaucoup, c'est dit à quoi, docteur?
Merci. L'enfant de 2 ans qui ne dort pas.
C'est pas lié à l'asphyxie.
Oui, c'est pas lié à l'asphyxie, mais juste un petit conseil. Si vous avez un médecin dans le quartier, vous pouvez consulter. Ça peut être un problème médical, ça peut être aussi un problème chirurgical. Donc, à distance, je ne sais pas vous dire quel médicament aider, ce n'est pas conseillé.
Oui.
Mais je vous conseillerais plutôt de consulter un personnel soignant dans le parage qui pourra voir si c'est un problème médical, il va donner un médicament. Parce qu'on peut avoir aussi des problèmes chirurgicaux aigus qui vont se manifester par des douleurs abdominales, donc des douleurs au ventre, des douleurs atroces qui vont faire que l'enfant va se rouler même sous le lit, va crier et... Ça va demander une opération en urgence.
Docteur Laetitia Mavinga, pédiatre clinique universitaire de Kinshasa, je vous remercie.
Merci. Au capiche.